Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Europe 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver jusqu'à 14h ensemble. On écoute le monde changer et on va l'écouter danser grâce à des carnavaliers inventifs. À la Nouvelle-Orléans, comme partout, la plus grande fête de l'année a été annulée. Qu'à cela ne tienne, à la place des chars, les jardins des maisons se sont transformés en scènes féeriques. On vous emmènera aussi rencontrer ceux qui créent les défilés des écoles de samba chaque année à Sao Paulo. Déçus mais jamais résignés, toutes ces petites mains talentueuses préparent le carnaval de 2022. On va aussi écouter le monde gronder au pied de l'Etna qui est entré en éruption cette semaine. De la lave, des cailloux et de la cendre partout. Et des Siciliens, tranquilles malgré tout et toujours fascinés par leur volcan. Et puis on entendra un monde qui résiste, celui des médias indépendants en Hongrie et Pologne, soumis à l'arbitraire de pouvoirs politiques qui voudraient bien qu'ils soient un peu plus dans la ligne. Enfin, on écoutera le cri d'alerte de l'écrivain et poète haïtien Lionel Trouillot. Son pays est en plein chaos, crise politique et institutionnelle, crise sécuritaire, crise sociale, Haïti cumule tout. Et beaucoup craignent le retour d'une dictature et se désolent du silence de la communauté internationale. Les carnets du monde sont ouverts. Dans un tout petit instant, on prend la direction de New Orleans.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Faire carnaval en pleine pandémie mondiale, c'est juste impossible. Et dans certains pays où ces journées de fête aux alentours de Mardi Gras sont attendues toute l'année, annuler, c'est un véritable crève-cœur. Mais c'est sans compter avec l'imagination des carnavaliers. Direction la Louisiane. À la Nouvelle-Orléans, cette semaine, aucun char n'a défilé, aucune foule ne s'est formée, mais la fête a pourtant bien eu lieu. Dans les jardins particuliers, Mardi Gras a été rebaptisé Yardi Gras. Le yard, c'est le petit jardin devant la maison américaine. Les costumes et les instruments de musique étaient au rendez-vous, et nous aussi, grâce à Aviva Fried. Reportage.
Down in New Orleans, where the blues were born, it takes a cool cat to blow a horn.
La musique résonne dans toutes les rues de la Nouvelle-Orléans, malgré le Covid et l'interdiction des parades de Mardi Gras. Les aficionados sont sortis, rivalisant d'imagination dans les costumes qu'ils arborent.
Je suis une tulipe psychédélique.
Une fleur que l'on voit venir de loin, avec sa combinaison moulante verte à franges et son immense pétale violet agrémenté d'yeux globuleux posés sur la tête, Kara Kerklang se fait remarquer, d'autant qu'elle n'est pas venue seule.
C'est notre jardin secret, notre garden party. On fait tous partie du jardin. On essaye de rester positif. On a décidé de sortir, de fabriquer nos costumes et de s'amuser.
Avec des roses, des tournesols, un nain de jardin et une enceinte qui crache de la musique à plein volume, la petite troupe arpente les rues. Croisant sur son chemin, un couple d'astronautes en combinaison intégrale, un monstre hybride avec pieds de dinosaure et couverture en crochet sur les épaules, ou bien encore un groupe d'amis déguisés en cocktail dans les moindres détails, jusqu'à la paille enfoncée dans la perruque violette. En l'absence de char, tout ce petit monde passe de maison en maison, une idée lancée par Megan Boudreau, une habitante qui n'avait pas l'intention de manquer la fête.
Je vois sur Internet, Mardi Gras est annulé. On ne peut pas annuler Mardi Gras, c'est une fête. C'est un jour du calendrier, comme Noël ou le Nouvel An. Je plaisantais sur Twitter. Je disais que j'allais décorer ma maison comme un char et jeter des cadeaux à mes voisins. Et je me suis dit, mes voisins vont aimer cette idée. J'ai donc lancé un groupe Facebook, invité mes voisins. Mais ça a vite pris de l'ampleur, de mon quartier à toute la ville.
Le premier Mardi Gras a eu lieu ici en 1699. C'est une institution depuis 1870 et pourtant, on n'avait jamais vu ça. Plus de 5000 maisons ont été décorées dans la ville, comme celle de Nancy Donez.
Happy Mardi Gras!
Joyeux Mardi Gras!
It's a fish.
C'est un poisson, et là c'est un dragon, et là une licorne, et puis un papillon. Vous voyez, il y a tous les ingrédients de ce qui fait la légende des chars de Mardi Gras. À l'origine, c'est un char très connu fait par des artistes, et c'est mon préféré. J'espère que je le représente bien.
Et pour rester dans la tradition, les propriétaires de maisons lancent aux passants de fausses pièces d'or ou des colliers de perles violets, jaunes et verts, symboles de pouvoir, de foi et de justice. Ou tout simplement pour s'amuser.
C'est simplement un boa en plume. Vous l'enroulez, vous le faites tourner un peu, c'est la joie de Mardi Gras.
Suzanne et Frank Drangowski ont décidé de se transformer, eux et leur maison, en barbe à papa et en bonbon. Un peu de douceur pour une année bien particulière.
C'est très différent.
C'est triste.
Ça nous manque, mais on va faire au mieux. On a toujours les déguisements.
D'autres maisons sont flanquées de tentacules de pieuvre et de squelettes. D'autres encore sont décorées façon bateau. Des photos de chiens s'affichent sur une façade, tandis qu'une demeure traditionnelle du Sud est désormais agrémentée de plusieurs clowns géants. C'est festif et en même temps, cela permet d'aider les personnes touchées par l'annulation des parades, car Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, c'est aussi une affaire dont l'impact économique global sur la ville est estimé à 1 milliard de dollars. Et les propriétaires de maisons comme Tiffany Brown sont ravis de donner un peu de travail aux personnes en difficulté.
Ça a soulagé un peu les personnes qui travaillent dans ce milieu. Les artistes ont pu s'activer, ceux qui s'occupent des éclairages. Tous ces techniciens ont pu faire quelques travaux en cette période, qui en général est celle où ils gagnent le plus.
Au détour d'une rue, trois figures drapées de tissu argenté, armées d'une guitare-clavier sortie tout droit des années 80, d'un ampli et d'un mégaphone, se sont lancées dans une performance artistique qui peut surprendre. Mais la représentation est quelque peu perturbée par le balai de voitures de police, bien décidées à éviter tout attroupement synonyme de possible contagion.
Assurez-vous de rester en mouvement. Pas de rassemblement, quel qu'il soit.
Un peu plus loin chez Lola Sinatra, on a trouvé la solution. Sa maison décorée façon hawaïenne est rebaptisée toujours bourrée à Coronaville est devenue pour la journée un centre de distribution de faux vaccins fait maison.
On donne des doses de vaccins, des doses de gelée à l'alcool. Hein. Et il faut en prendre deux, parce que c'est deux pour être protégé.
À la Nouvelle-Orléans, on a tellement aimé faire des maisons de carnaval que beaucoup prévoient déjà de recommencer l'expérience l'année prochaine. Même si on attend avec impatience le retour à la normale du jour le plus important de l'année. À la Nouvelle-Orléans, à Viva Free, Europe 1.
Ah, ça fait du bien cette musique de Mardi Gras en Louisiane. Étape suivante, le Brésil bien sûr. Tout le monde connaît le carnaval de Rio, annulé cette année comme tous les autres. On connaît moins celui de Sao Paulo. Pourtant les écoles de samba, là aussi, s'y préparent toute l'année. Le carnaval de Sao Paulo, c'est 25 000 emplois. Marino Dacher est allé rencontrer les artisans de cette immense fête qu'on prépare habituellement toute l'année. Des hommes et des femmes, un peu désœuvrés évidemment, mais plus passionnés que jamais. Reportage.
Traverser São Paulo jusqu'à la zone nord, ces rues désertes, un Mardi Gras de carnaval, c'est inédit. On arrive au baracan des écoles de samba, là où normalement sont préparés les immenses chars qui défilent.
Le baracan, c'est l'usine du carnaval. Ici, tout arrive brut et ressort brillant de mille feux, comme vous le voyez le jour du défilé.
Gabriel Melo est directeur du carnaval de Vai Vai, une école de samba qui, depuis 1930, fait danser 4500 passionnés sur un thème différent chaque année, avec une musique composée pour l'occasion, car le carnaval officiel, c'est une grande compétition, avec des prix, un classement final. Mais aujourd'hui, silence dans l'usine et dépit pour les fidèles de l'école.
On aurait dû défiler ce samedi. Et là, c'est le jour le plus important normalement, celui où on attend nos notes, où on attend les résultats du classement. Et ça aurait dû être très tendu. Et là, vous voyez, tout est vide dans notre usine, mais aussi émotionnellement.
Vai Vai emploie au moins 850 personnes et cette année, la plupart sont sans revenus. L'aide d'urgence du gouvernement, environ 43 euros par mois en fin d'année dernière, n'est plus versée. La crise économique, le chômage qui explose à plus de 13%, la situation sanitaire catastrophique. Mais ce dont parle d'abord la communauté Vai Vai, ce n'est pas de ses difficultés financières, mais d'une passion, d'une famille.
On vit en fonction du carnaval. C'est pas seulement un défilé qui est annulé. On a perdu des amis. L'école de samba, c'est notre famille d'habitude. Vai Vai répète tous les dimanches. Et le dimanche, maintenant, c'est le jour le plus triste de la semaine. Je me lève et je sais pas quoi faire. Je vais pas voir ceux que j'aime. Je vais pas voir mes amis, voir mon drapeau ondulé. C'est désolant. Quand est-ce qu'on va pouvoir à nouveau être heureux, partager ce bonheur? Mais on peut pas risquer des vies humaines. Les professionnels du carnaval sont des gens très simples. Ils n'ont pas de mutuelle, ce sont les plus vulnérables.
Les écoles de samba sont liées au quartier populaire où elles sont nées. Et au-delà des paillettes, leur rôle social est important. Vai Vai est indissociable du quartier Bella Vista à São Paulo, là d'où vient Marcos. Il semble timide avec sa longue barbe grise, ses cheveux crépus et ses yeux verts. Mais dès qu'il parle de son travail et active sa machine de thermoformage qui sert à mouler les décors et les accessoires, son regard brille.
Je suis ici depuis 2013. J'aime ce travail. J'ai un vrai boulot ici. Cette machine m'a formé. C'est dur de ne pas avoir de carnaval cette année, car je fais partie de ceux qui y travaillent toute l'année, pas seulement à la veille du carnaval. J'ai un vélo, alors je suis devenu livreur pour avoir un petit revenu complémentaire. Je ne suis pas resté enfermé chez moi en quarantaine. C'est un amour filial, le carnaval. Je suis né le 28 octobre, 9 mois après la fête, donc je suis un enfant du carnaval.
Marcos porte un Marcel sur ses bras musculeux, aucune marque de brûlure ni de griffure. Alors que s'il y avait un carnaval, je serais plein de cicatrices à cause de la machine, explique-t-il. Mais son tatouage à l'encre noire sur l'avant-bras, avec la couronne, les feuilles de café et les lettres de Vai Vai, survivra à cette année. Luciana dos Santos, elle, a aussi tatoué en très grand sur le bras son amour pour l'école de samba. Et à la pause café-cigarette au milieu des rouleaux de tissu et des rubans, l'accessoiriste m'explique pourquoi son travail est si complexe.
On prépare déjà le carnaval 2022. Je n'ai que de la gratitude pour cette école. Elle m'a appris à m'aimer moi-même, à être détestée, à être respectée. Je partage plus de temps avec eux, les gens de l'école, qu'avec ma propre mère, mon frère ou mon fils. Pour moi, il n'y a pas d'horaire, de jour ou de salaire plus important que d'être ici. C'est ma routine.
Ces derniers jours, les membres de l'école, assaillis de tristesse, ont revu ensemble les défilés des années précédentes et commenté un peu comme un match de foot les costumes, les mélodies, les faux pas et la grandeur de leur école. Caio, lui, est tombé dedans tout petit. Il a défilé dans le ventre de sa mère et 35 ans plus tard, il coordonne la confection des costumes, bénévolement mais très sérieusement.
Bon, là, on va résoudre quelques tracas administratifs. Ce n'est jamais férié hein, pour nous. On se réunit tous les jours ou presque. Parfois, on se dit bon, allons manger une pizza. Et la pizza devient une réunion. Et à 5h du matin, eh ben, on y est encore.
Caio est aussi propriétaire d'une pizzeria. Alors, passion, travail, amour, tout se mélange. Et si la pandémie annule l'édition 2021, Gabriel, lui, s'accroche au rêve de 2022.
Ce qui nous nourrit, c'est cette phrase. Quand le carnaval reviendra. Ce n'est pas que le carnaval, c'est le jour où on va se réveiller, ouvrir les yeux et se dire « c'est fini ». Voilà ce qui nous fait tenir. Et puis le carnaval permet de décompresser et je suis certain que comme en 1919 après la grippe espagnole, 2022 sera le plus beau carnaval de l'histoire.
La tristesse, mais toujours cette foi en l'avenir et la certitude que grâce à la vaccination, des jours heureux nous attendent. À São Paulo, Marino Dacher, Europe 1.
Le carnaval reviendra bien sûr et on dansera la samba.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Avez-vous vu ces images magnifiques dans le sud de l'Italie, en Sicile? L'Etna a fait des siennes ces derniers jours. Le volcan le plus actif d'Europe est entré en éruption. Une colonne de fumée orangée qui s'élève au-dessus du cratère central. Un geyser de lave rouge vif qui perce la nuit, c'est spectaculaire. La pluie de cendres est arrivée jusqu'à Catane, la grande ville de l'est de la Sicile. Bonjour Cécile Debarge.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en Sicile, basée, je le précise, à Palerme, à 200 km de l'Etna, mais c'est un coin que vous connaissez très bien, notamment pour avoir réalisé des documentaires sur les volcans. Alors, aucun dégât majeur n'est à déplorer, mais on se demande toujours, vu d'ici en tout cas, comment les habitants vivent ces moments d'éruption qui s'invitent dans leur quotidien. Ils ont beau être habitués à la vie parfois bruyante du volcan, comment ont-ils vécu ce spectacle de feu cette semaine ?
Eh bien, dans le plus grand des calmes, ce sont des moments toujours un peu suspendus. Chacun se met à la fenêtre, regarde ce qui se passe. Il faut imaginer surtout le bruit que font ces pierres quand elles tombent. Mmh. Et c'est d'ailleurs comme ça que Rosario Rizza s'est rendu compte de l'éruption.
J'étais chez moi et j'ai entendu qu'il pleuvait. Il pleuvait, mais rien n'était mouillé. Alors j'ai regardé par la fenêtre et là j'ai vu. J'ai vu cet immense nuage rougeâtre qui sortait du volcan et se déversait sur la ville. Pendant une petite heure, il a continué à pleuvoir des pierres, des petites, des grosses, des cendres.
Rosario Rizza habite dans le nord de Catane, au pied du volcan donc. La ville a été recouverte de cendres. Ceux qui se trouvaient plus en altitude, comme Franco Emi, ont récupéré des morceaux de matière volcanique qui, en réalité, en retombant un verre froidi, il vaut mieux dans ce cas se mettre à l'abri.
Ce nuage de gaz a projeté de la matière volcanique jusqu'à 6-7 km de hauteur, dont des pierres ponces. J'en ai récupéré 3 qui sont là sous mes yeux. Elles font 3-4 cm de longueur et c'est déjà assez gros. Et dans les villages les plus proches, à 2000 mètres d'altitude, ça a fait retomber un manteau de cendres. Hier, on l'a mesuré et il faisait 3 cm.
Pour avoir un ordre de grandeur, l'Etna culmine à 3325 mètres d'altitude. Mm-hmm. Les derniers villages, eux, se trouvent aux alentours des 2000 mètres d'altitude. Ouais. Et c'est pour ça que cette éruption n'a pas vraiment inquiété les habitants, parce qu'elle est restée autour du cratère central, donc tout en haut.
J'imagine quand même que ça doit être très impressionnant de sortir ensuite de chez soi et de retrouver toute la ville sous une couche de cendres.
Les rues sont noires, mais aussi l'intérieur des maisons. D'ailleurs, quand j'ai joint Gaetano Pericone, il venait de passer plusieurs heures à dégager le toit de sa maison, mais aussi sa terrasse, des pierres et des cendres.
Dès que l'on peut, on doit nettoyer les villes, libérer les rues de toutes ces cendres, car ça peut être dangereux. À Catane, par exemple, le maire a pris un arrêté pour interdire l'usage des deux roues parce qu'il risque de tomber.
Et les voitures, elles ne doivent pas rouler à plus de 30 km/h, là encore parce que le sol est rendu très glissant et qu'inévitablement circuler, et ben, ça fait voler ces cendres un peu partout.
C'est cette poussière qui s'invite dans les maisons, dans les rues, est-ce qu'elle est dangereuse pour la santé des habitants, Cécile ?
À forte dose, comme dans le cas de l'éruption des derniers jours, elle va se loger directement dans les poumons des habitants. Alors, on parle bien sûr de microparticules, ce sont des quantités infimes, mais elles sont quand même là. Mmh. Et après chaque éruption importante, pour éviter justement cette poussière qui brûle la gorge et les poumons, les habitants ont l'habitude de sortir masqués.
Mais est-ce qu'il existe un système d'alerte pour les habitants avant une éruption ? Est-ce qu'ils font des exercices régulièrement, comme par exemple les Japonais face au risque sismique ?
Dans toutes ces villes, aux abords du volcan, donc, la protection civile émet tous les jours un bulletin d'information et le transmet aux mairies. C'est possible aussi de le consulter sur Internet. Et là, on retrouve des niveaux d'alerte différents, la marche à suivre. Mm-hmm. Ces derniers jours, par exemple, aucune évacuation n'avait été prévue.
Et puisque les habitants n'ont pas peur face à ces éruptions, on l'a entendu, qui sont pourtant très impressionnantes, c'est quoi alors le sentiment qui domine ?
C'est sans doute une certaine fascination. Gaetano Pericone est écrivain, il a consacré d'ailleurs un livre à cette relation très particulière qu'entretiennent les habitants avec le volcan.
Ils ont une relation extraordinaire, faite d'affection, d'un amour profond. Et c'est un lien très fort, une grande passion. C'est un rapport qui ne laisse aucune place à la peur ou à l'inquiétude.
Beaucoup y voient une présence maternelle, protectrice. Mmh. Ça tient aussi au fait que la présence de l'Etna constitue d'énormes réserves en eau. Elle offre aussi des terres très fertiles pour l'agriculture. Par exemple, sur les flancs de l'Etna, les habitants cultivent des vignes, des oranges, mais aussi, imaginez, des avocats ou des mangues. Et puis, tout simplement, c'est leur identité. C'est ce qu'explique Rosario Rizza.
Catane vit à l'ombre de l'Etna. Le volcan donne en quelque sorte son identité aux habitants de Catane. Catane n'existerait pas sans l'Etna. Toute son histoire est liée à la présence du volcan.
Et le dernier élément à prendre en compte, c'est l'habitude. Gaetano, Franco, Giuseppe, Marco, tous me l'ont dit en répondant à mes questions. Cette éruption, c'est normal, on y est habitué.
Ben
Franco, par exemple, a entendu sa première éruption au début des années 70.
Pour moi, c'est quelque chose de normal, parce que j'en ai vu beaucoup. Rien qu'entre 1999 et 2000, il y en a eu environ 65.
65 éruptions en 2 ans à peine. Effectivement, c'est quasi la routine à ce niveau-là. Justement, Cécile, est-ce que ces habitants, à force, ont des rituels, voire des superstitions pour vivre aussi sereinement à côté du volcan?
Absolument, et c'est très lié à la religion. Tous les ans, Catan célèbre Sainte Agathe, qui est la sainte patronne de la ville. Pendant 4 jours, Catan est noire de monde et vit au rythme des célébrations et des processions.
Et c'est cette Sainte Agathe qui est censée protéger les habitants des colères de l'Etna?
Exactement. Marco Pappalardo est professeur de lettres, il publie de nombreux livres d'enseignement religieux et il rappelle que c'est en réalité le voile de la sainte qui est au cœur de cette croyance.
Aujourd'hui, il est conservé dans une très belle boîte à reliques et il est exposé et parfois porté en procession parce qu'il représente un symbole très fort. La légende raconte que lorsque la sainte a été soumise au martyre des charbons ardents, son voile n'a pas pris feu.
On a donc ce voile qui résiste au supplice du feu et un deuxième événement qui va définitivement sceller la relation entre la sainte et les dangers du volcan. C'est Rosario Rizza, très actif pour organiser chaque année les célébrations de Sainte Agathe, qu'il raconte.
Un an après la mort de Sainte Agathe, il y a eu une grande éruption qui a menacé Catan. Les habitants qui avaient déjà décrété qu'Agathe était une sainte ont pris son voile. Ils ont organisé une procession dans la direction de la lave et elle s'est arrêtée. Depuis, à chaque fois que la lave a menacé Catan, ce geste de foi a été répété.
Edith, Cécile, ça fonctionne à chaque fois le pouvoir du voile de la sainte pour arrêter la lave?
Disons qu'en 1669, la dernière grande éruption de l'Etna, la lave a encerclé une partie de la ville, les habitants ont dû fuir par la mer, mais elle a épargné tous les lieux dédiés à Sainte Agathe, il n'en fallait pas plus, la légende était faite. Ces processions pour stopper la lave, on les retrouve aussi dans toutes les villes qui se trouvent sur les flancs du volcan, avec les saints patrons locaux. Ce lien entre la lave et la foi est assez central pour les habitants de la région.
Et oui, on est en Italie. Et la procession cette année, ça aurait dû être il y a 10 jours, mais Covid oblige, elle n'a pas eu lieu, remplacée par une cérémonie virtuelle sur Internet. C'est peut-être pour ça que l'Etna n'était pas content, qui sait ? Merci Cécile pour cette petite vadrouille au pied de l'Etna, très dépaysante. Merci, à bientôt.
À bientôt.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
La page culturelle des carnets cette semaine, c'est une série télé. Et qui dit série, dit Eva Rock. Elle est là. Bonjour Eva.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Et on reste donc en Italie avec cette série étonnante disponible sur le site d'Arte, arte.tv. Série en 8 épisodes intitulée Il Miracolo.
Exactement Sophie. Alors essayez d'imaginer, nous sommes à Rome. Des forces de l'ordre surarmées, cagoulées, avancent avec une prudence extrême dans un lieu sombre, sale, un dédale de pièces, avant d'apercevoir une lumière au fond. Le sol est baigné de sang. Un homme, recroquevillé, est là, effaré. Il est embarqué immédiatement par 2 officiers. Gros plan alors sur les visages des 3 autres officiers. Ils ont les yeux écarquillés, ils enlèvent leur casque, leur cagoule. Ils semblent totalement pétrifiés. Une scène de 2 minutes avant cette musique.
Ça s'appelle un contraste d'ambiance.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Bienvenue dans l'univers étrange de la série italienne Il Miracolo, diffusée sur Arte en 2019 et de nouveau disponible sur le site arte.tv.
Alors tout ça est très mystérieux. Qui est l'homme arrêté et d'où vient ce sang?
Eh bien, il s'agit d'un chef mafieux et ses litres d'hémoglobine proviennent du visage, une statuette de la Vierge, des larmes de sang qui vont bouleverser la vie de plusieurs personnages.
Mais c'est une série fantastique?
Alors oui et non, parce qu'il s'agit bien d'une étrange statuette, mais le côté éventuellement fantastique s'arrête là. Il Miracolo, première série du romancier Niccolò Ammanniti, et avant tout une série policière et politique révélatrice des thématiques qui secouent la société italienne de nos jours. Une équipe de scientifiques qui est placée sous la direction du général Vota va tenter de comprendre dans le plus grand secret comment cet objet de plastique, parce que oui, la statuette est en plastique, produit autant de sang. Il y a un homme qui est tenu au courant des avancées de l'enquête, c'est le premier ministre italien Fabrizio Pietro Marchi. Il vient de découvrir la statuette. Premières impressions.
C'est quoi le truc?
Il n'y a aucun truc.
Donc vous êtes en train de dire que cette statuette verse des larmes de sang? Vraiment?
9 litres par heure.
Vous me faites une farce? Je suis filmé pour une émission de caméra cachée, c'est ça?
Non.
Il doit y avoir une pompe ou un réservoir. Ou alors une réaction chimique ou quelque chose de technologique. Un truc? C'est quoi sinon? C'est un miracle?
Ça pourrait presque faire sourire, Sophie.
9 litres par heure.
Mais il y a une question qui se pose rapidement. Faut-il ou non rendre publique cette affaire? C'est une question qui est d'autant plus délicate que le pays est à la veille d'un référendum portant sur la sortie de l'Europe. Et Premier ministre n'a qu'une idée en tête, lui, c'est d'alerter le Vatican, au fond. Refiler en fait la patate chaude, pour le dire plus crûment. D'autant que le chef du gouvernement n'est pas croyant par ailleurs. Réponse du général.
Si le Vatican divulguait la nouvelle, alors là, c'est à vous que ça posera un grave problème de sécurité publique. Pensez à tous les pèlerins qui arriveraient en masse. Des millions de gens, en seulement quelques jours. Et tout ceci à un moment où l'Italie risque de sortir de l'Union européenne. Les guerres de religion. Non, cette affaire pose vraiment un problème de sécurité nationale.
Et donc la statuette devient un objet politique.
Exactement, un objet sur lequel en fait se cristallisent d'autres interrogations sociétales, le poids de la religion en Italie, vous le verrez, tous les personnages ne réagissent pas de la même façon face à cette madone, mais aussi comment science et croyance s'opposent, sujet hautement d'actualité, et dressent dans un second plan aussi un portrait de la société autour des notions du couple et de la famille notamment.
Est-ce que sur la forme, cette série vous a plu?
Une petite merveille, voilà, c'est un petit bijou grâce à la mise en scène très esthétique, portée par une bande-son originale, aussi entre musique électro et variété italienne. Il Miracolo se décline ainsi en 8 épisodes à découvrir gratuitement sur le site d'Arte, arte.tv.
8 épisodes, c'est parfait, c'est pas trop long.
C'est pas trop long, c'est
merci du bon conseil, Eva. Et au programme de votre podcast Série Land, que se passe-t-il cette semaine?
Eh bien, nous allons parler des séries d'animation pour adultes. Je répète, pour adultes, il s'agira de parler de sexe et de politique.
Très bien, c'est noté. Série Land à déguster sur Europe1.fr et toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. Merci beaucoup, Eva. À suivre, un autre sujet hautement politique, les combines de la Hongrie et de la Pologne qui s'attaquent à la liberté de la presse.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Encadrer les médias, voire les mettre au pas, cette fâcheuse tendance se poursuit dans certains pays européens avec de nouveaux épisodes ces derniers jours. En tête de file, la Hongrie, dirigée par Viktor Orban. Dernière victime en date, Klub Radio, la principale station indépendante du pays, a cessé d'émettre sur la bande FM dimanche dernier à minuit.
3, 2, 1, 0.
Nous n'oserions jamais faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec nous.
Voilà l'hymne européen comme baroud d'honneur et cette dernière phrase glissée comme un clin d'œil par les équipes de Klub Radio, phrase prononcée en 2018 par Viktor Orban au Parlement européen provoquant l'hilarité de l'hémicycle. Et Klub Radio propose désormais ses programmes sur Internet. Existe-t-il encore un espace pour les voix critiques en Hongrie? Et comment celle-ci résiste-t-elle face au pouvoir? On en parle avec Joël Le Pavou, notre correspondant à Budapest. Bonjour Joël.
Bonjour Sophie.
Ce bras de fer entre le pouvoir et Klub Radio dure en fait depuis 10 ans. Pourquoi cette radio dérange-t-elle Orban?
Eh bien en fait, Klub Radio, c'est la principale voix discordante du pouvoir sur les ondes magyares. Près de 200 000 auditeurs écoutent chaque jour cette station d'opposition qui ne ménage pas le gouvernement. Et le 9 février, le Conseil des médias, un genre de CSA hongrois soumis au pouvoir, refusait de prolonger la dernière fréquence de la radio, qui avait déjà perdu ses 12 ramifications en province entre 2010 et 2014. J'ai rencontré son patron, András Arató, qui dénonce un choix politique plutôt contre-productif de la part du pouvoir.
Cela faisait 6-7 ans qu'il ne nous restait que la fréquence de Budapest. Et maintenant, elle vient de nous être retirée. Sauf qu'en agissant ainsi, le Fidesz ne nous a pas fait taire. Au contraire, il a consolidé notre public quelque part. Nous avons même gagné des auditeurs qui ne nous connaissaient pas, mais ont entendu parler de ce scandale. En fait, tous ces gens se sont renseignés sur cette station dont le pouvoir veut se débarrasser à tout prix. Et ils se sont mis à écouter Klub Radio. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont restés avec nous.
Reste que le sort de Klub Radio est le énième exemple de ce que subissent les médias indépendants sous Viktor Orban, Joël.
Oui, il faut se rendre compte que plus de 80% des médias en Hongrie sont aux mains du pouvoir. 2 des 3 grands quotidiens nationaux et 2 des 3 principales chaînes de télévision du pays relaient la ligne du gouvernement. Mmh. Et par ailleurs, depuis septembre 2018, un conglomérat baptisé Keshma concentre 476 titres de presse qui font la propagande de l'exécutif dans tout le pays. Dans ce paysage, les voix critiques se font de plus en plus rares et elles se sont réfugiés surtout sur Internet, à l'instar du site d'information Telex, lancé en octobre dernier sur les cendres d'un autre site repris en main par le pouvoir. Un pouvoir qui ne leur fait pas de cadeau, comme l'a expliqué le rédacteur en chef adjoint Sabolcsdoul.
Le gouvernement nous considère comme des ennemis. Les politiques de gouvernement ne donnent pas d'interviews, ils ne répondent pas aux questions, ils n'envoient souvent pas d'invitations à des événements officiels. Les journaux indépendants et les journalistes indépendants sont diabolisés par les politiques de Fidesz et dans les médias proches du gouvernement.
Joël, le risque dans ce contexte de pression et d'emprise sur les médias, c'est une certaine forme d'autocensure, non ?
Alors oui, certains journalistes reconnaissent qu'ils évitent d'écrire sur Orban et sa famille par peur des conséquences, mais il reste des médias qui ne se gênent pas pour enquêter sur le Premier ministre et ses proches et les tacler s'il le faut. Parmi ceux-là, il y a l'hebdomadaire Moyerhang, créé par d'anciennes plumes d'un quotidien contraint à la fermeture puis relancé par le pouvoir. Mais tout est compliqué. Pour paraître en kiosque, par exemple, Moyerhang doit imprimer ses pages en Slovaquie, m'a indiqué György Zsombor, rédacteur en chef.
Nem találtunk Magyarországon olyan nyomdát, amelyik vállalta volna.
Nous n'avons trouvé aucune imprimerie en Hongrie. Certaines nous ont répondu qu'elles n'osaient pas prendre de risques et que nous devions les comprendre, car elles craignaient de subir un contrôle fiscal derrière. Et les autorités trouveraient forcément un prétexte pour les punir. Du coup, nous avons été contraints de chercher à l'étranger. Nous travaillons avec une imprimerie très correcte et professionnelle à Bratislava, en Slovaquie, qui nous livre les journaux en camionnette, chaque jeudi.
Il vaut mieux croire à ce qu'on fait dans ces conditions. Joël, les élections législatives ont lieu en 2022, l'année prochaine. Orban y joue sa réélection, ce qui peut expliquer d'ailleurs la fermeture de Club Radio. On peut craindre que les médias indépendants ne soient pas au bout de leur peine.
Sans doute, surtout quand on voit ce qu'ils ont subi depuis 2010, mais Orban sait qu'il n'a pas intérêt à tous les museler, ne serait-ce que pour pouvoir dire que ses détracteurs ont le droit de s'exprimer et entretenir un semblant de pluralisme.
Au classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, la Hongrie occupe actuellement la 89e place sur 180. Elle était 23e quand Viktor Orban est devenu Premier ministre il y a 10 ans. Merci Joël Le Pavou pour ce décryptage. À très bientôt dans les carnets.
Merci Sophie, à bientôt.
D'autres pays de l'Union européenne suivent la voie montrée par Viktor Orban en Hongrie. C'est le cas de la Pologne, dont le parti conservateur Droit et Justice au pouvoir depuis 2015 s'en prend lui aussi à la liberté de la presse dans le pays. Dernier épisode, ce mouvement sans précédent il y a une dizaine de jours. Les médias indépendants ont observé une grève de l'information sur les radios, les télévisions et dans les journaux. Bonjour Marie Le Pulloch.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Varsovie. Les médias polonais protestent contre un nouveau projet d'impôt sur la publicité. La presse indépendante survit grâce aux recettes publicitaires. Cette taxe les fragiliserait indéniablement. Alors d'abord, à quoi ressemblait leur grève de l'information ? Radio Z.
Vous entendez ce petit message, les différentes stations de radio l'ont toutes diffusé. À la télévision, c'est un écran noir qui est apparu et à la une des journaux, une page noire avec ce slogan. Média bez wyboru. Média sans choix. Leur idée, c'est de montrer comment le paysage médiatique risquerait de se réduire si cette nouvelle taxe était adoptée. Et cette campagne a été extrêmement suivie en Pologne par une cinquantaine d'entreprises de presse. Pour Bartosz Wieliński, rédacteur en chef du grand quotidien national Gazeta Wyborcza, cette solidarité entre médias, c'est du jamais vu en Pologne.
On a vu les journalistes des petites villes rejoindre ceux des grands médias du pays. On a vu les journalistes très critiques sur les changements en Pologne depuis l'arrivée du gouvernement conservateur se lier avec ceux qui jusqu'ici semblaient ne pas s'en soucier. Cette solidarité est impressionnante et ce qui est frappant, c'est que nous n'avons jamais eu une journée sans médias dans l'histoire polonaise, sauf pendant la période communiste.
Alors cette unanimité, Marie, en dit long sur la nocivité de cette nouvelle taxe si elle entrait en fonction.
Oui, pour ces médias, c'est une situation d'urgence. Le gouvernement affirme que cette taxe doit permettre de renflouer les caisses de l'État en pleine pandémie de Covid-19. Hypocrisie, répondent ces médias dont la ligne éditoriale ne convient pas au parti conservateur Droit et Justice. Dans les locaux de l'association La Société des journalistes, l'un de ses membres, ancien correspondant du Financial Times, Christophe Bobinski, est pessimiste.
Le gouvernement polonais semble penser qu'il serait plus tranquille si tous les médias soutenaient ses actions, et cela nous inquiète. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2015, il a commencé par reprendre le contrôle des médias publics et les transformer en outils de propagande. Puis ces deux, trois dernières années, le gouvernement a dit vouloir agir pour équilibrer la scène médiatique, c'est-à-dire en fait reprendre le contrôle des médias privés qui sont critiques du pouvoir.
Et pour ça, il y a un mot que le gouvernement brandit, il parle de repoloniser les médias.
Voilà, repoloniser les médias qui ont des actionnaires étrangers et qui sont accusés régulièrement par les autorités d'influencer les affaires internes de la Pologne et d'attaquer le pouvoir en place. Le gouvernement veut des médias 100% polonais et encore mieux si ce sont des entreprises d'État qui les rachètent. Au siège du ministère de la Justice, j'ai rencontré récemment le vice-ministre Sébastien Kaleta, ravi du récent rachat de Polska Press, un véritable empire qui détient 20 des 24 quotidiens régionaux du pays, une centaine d'hebdomadaires, des centaines de site internet. Ce groupe avait des capitaux jusqu'ici allemands et il a été racheté par le géant pétrolier polonais Orlen.
C'est un très bon projet pour la simple et bonne raison que le marché polonais des médias est aujourd'hui dominé par les capitaux étrangers. La France, l'Allemagne ou l'Espagne ont depuis longtemps réglementé la question du capital dans les médias, car cela a indéniablement une influence sur la manière dont les médias décrivent la réalité dans un pays donné. Les médias importants ne devraient pas être aux mains de capitaux étrangers.
Alors, petite précision quand même, hein, pour ne pas laisser dire n'importe quoi. En France, il existe des règles pour éviter certaines concentrations de capitaux, mais ça vaut pour tout le monde, hein, capitaux français et étrangers. Revenons à la Pologne et à ce groupe de presse racheté par le géant pétrolier Orlen. C'est une entreprise nationale, Marie ?
Oui, Orlen est détenu en partie par l'État polonais et son dirigeant est très proche du parti au pouvoir. De quoi inquiéter donc une nouvelle fois les journalistes qui redoutent un scénario à la hongroise. Mmh. Alors qu'exercer son travail de journaliste ici en Pologne est devenu plus compliqué depuis 2015, Bartosz Wieliński le voit tous les jours, lui qui travaille à la Gazeta Wyborcza, grand quotidien libéral critique du pouvoir.
J'ai fait une liste des responsables politiques du parti Droit et Justice qui m'ont bloqué sur Twitter. Cela montre bien leur relation au journalisme et avec les médias indépendants. Bien sûr, la Pologne n'est ni la Turquie ni la Russie, les autorités ne vont pas nous envoyer la police. Mais on n'a jamais eu d'interview du président ou du premier ministre. On ne reçoit aucune aide via les publicités d'entreprises d'État ou d'agences du gouvernement. Le pouvoir n'achète pas notre journal, n'est pas abonné. L'an dernier, le gouvernement a lancé une grande campagne d'information sur la pandémie partout, sauf dans nos pages.
Le rédacteur en chef m'a précisé que l'an dernier, le gouvernement a lancé des poursuites judiciaires à 60 reprises contre le journal. Wow. Ces derniers jours, devant les protestations des médias indépendants, de l'opposition et même d'une partie de la coalition au pouvoir, le gouvernement a toutefois annoncé qu'il allait réécrire le projet d'impôt sur la publicité.
C'est ce que le vieux dissident Adam Michnik, fondateur de Gazeta Wyborcza du temps de Solidarność, appelle la tactique du salami, donc la conquête du pouvoir couche après couche, en tentant d'interdire un par un tous les mouvements qui pourraient opposer une résistance, dont les médias indépendants. Et les élections en Pologne, Marie, c'est quand ?
C'est prévu en 2023.
Ok, on en reparlera donc, évidemment. Merci beaucoup, Marie, pour cet éclairage. À bientôt.
À bientôt.
Étape suivante, loin dans les Caraïbes, on prend la direction d'Haïti.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Dimanche dernier, le 14 février, les Haïtiens étaient dans la rue. Immense manifestation pour dire non à la dictature. Que se passe-t-il dans cette petite République des Caraïbes, secouée par une vague de contestations et de violences depuis plus de 2 ans, mais plus particulièrement ces dernières semaines? Le pays n'a plus de parlement, les élections qui auraient dû se tenir en octobre dernier n'ont pas été organisées. Et le président Jovenel Moïse affirme que son mandat court jusqu'en février prochain, soutenu par les États-Unis, quand toute l'opposition, la société civile et les plus hautes instances judiciaires d'Haïti considèrent que sa présidence a pris fin le 7 février dernier. Que se passe-t-il à Haïti ? On en parle dans les carnets avec l'écrivain Lionel Trouillot, qui est en ligne avec nous depuis Port-au-Prince. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes romancier, poète et professeur de littérature haïtien et vous venez de lancer un appel à la communauté internationale pour qu'elle cesse de soutenir le régime en place qui, dites-vous, s'est allié aux gangs criminels qui font régner la terreur dans le pays. Vous alertez depuis longtemps déjà.
Oui, depuis 2018, il y a un mouvement de contestation
de la part de la population. Souvent, les gens disent l'opposition, mais le pays est dans l'opposition. Il ne s'agit pas simplement d'une opposition politique, de formation politique. Il s'agit de l'ensemble de la société civile, que ce soit les gens des professions libérales, les associations qui représentent les professions libérales, que ce soit les instances religieuses. Tout le pays, depuis déjà 2018, dénonce la corruption et les crimes de sang commis par ce pouvoir. Maintenant, en plus, le mandat du président est arrivé à terme, c'est février 2021, et il veut se maintenir au pouvoir et prétend vouloir lui-même organiser des élections, modifier la Constitution. Et donc, c'est un pouvoir qui est à la fois illégitime et illégal, inconstitutionnel. Et nous comprenons mal, nous autres Haïtiens, que des instances de la communauté internationale ou des pays qui se disent amis d'Haïti puissent continuer à soutenir une entreprise qui n'est plus qu'une vulgaire entreprise criminelle contre le peuple.
Lionel Trouillot, Jovenel Moïse gouverne par décret, du coup, et il entretient, dites-vous, une parodie de démocratie formelle. Vous craignez que ce référendum de la Constitution qu'il organise là bientôt soit un moyen de se maintenir au pouvoir au-delà même d'un an? Vous dites que Haïti va vers une dictature?
Oui, puisqu'il a pris lui-même l'autorité que personne d'autre ne lui reconnaît, de modifier la Constitution, de proposer un référendum pour adopter cette nouvelle Constitution, ce qui d'ailleurs est interdit, ce qui d'ailleurs est interdit par la Constitution en vigueur. On est en plein délire dictatorial et les propos qu'il tient, c'est un président qui dit « je vais vous taper sur les doigts ». Je le cite, c'est un président qui dit « après Dieu, c'est moi ». C'est le genre de discours auxquels nous faisons face, et ce sont des pratiques de terreur qui sont de plus en plus exercées contre la population. Les arrestations arbitraires, les révocations, les persécutions de personnes travaillant dans le domaine des professions libérales ou d'entrepreneurs qui ne suivent pas les ordres du gouvernement, des massacres dans les quartiers populaires, une persécution sur les militants politiques des organisations.
C'est ça le quotidien des Haïtiens ?
C'est ça le quotidien des Haïtiens.
Qui perpétue ces massacres dont vous parlez, ces crimes, ces enlèvements ? Il y a beaucoup d'enlèvements aussi en Haïti aujourd'hui. Qui fait ça ?
Il y a beaucoup d'enlèvements. Écoutez, le gouvernement a lui-même dit avoir fédéré, mais c'est incroyable, avoir fédéré des gangs qui interviennent dans les quartiers populaires.
C'est le G9.
Le fameux G9. Et on a même entendu quand même la représentante de la mission des Nations Unies en Haïti dire que c'était une bonne chose que les gangs soient fédérés. Et d'ailleurs, on ne comprend pas le soutien des Nations Unies et des États-Unis en particulier pour ce gouvernement. Donc ce sont des gangs, ce sont aussi des agents de la police nationale qui fonctionnent aujourd'hui comme un corps de tonton Macoute sur le mode du duvalierisme. On a quand même connu 30 ans de dictature avec les duvaliers, on ne veut absolument pas revivre pareille chose, mais le pays est engagé sur ce chemin. Aujourd'hui, l'argent que ce gouvernement dépense pour faire du lobbying en France, d'ailleurs, vous pouvez vous renseigner pour voir qu'il y a des gens qui font actuellement auprès de la communauté française, de la communauté haïtienne en France, du lobbying auprès des instances gouvernementales, auprès des instances internationales. C'est énormément d'argent qui est dépensé. De toute manière, c'est un gouvernement qui ne peut pas convaincre en Haïti. Il ne peut se maintenir que par la corruption et le crime. Et c'est cela qu'on voudrait que la communauté internationale réalise.
Vous dénoncez, Lionel Trouillot, l'impunité de ces gangs qui commettent des crimes tous les jours, et alors qu'en même temps, les manifestations pacifiques des Haïtiens sont réprimées. Et vous, par exemple, vous qui n'avez jamais quitté Port-au-Prince et qui êtes un écrivain engagé dans votre pays, est-ce que vous vous sentez en danger?
Oui, je crois que tout Haïtien aujourd'hui se sent en danger, puisque nous sommes dans le règne de l'arbitraire. Le plus triste exemple est l'arrestation d'une vingtaine de citoyens haïtiens réveillés à 3h du matin et accusés de complot contre la sûreté de l'État et de volonté d'attenter à la vie du président qu'on appelle aujourd'hui en Haïti le président de facto. Ils sont encore en, en prison pour la plupart. Seul un juge de la Cour de cassation a été libéré. Et d'ailleurs, imaginez, moi je dis souvent ça aux amis étrangers, imaginez qu'un président américain prenne sur lui d'arrêter un juge de la Cour suprême à 3h du matin dans son lit, dans sa résidence privée.
Quand vous
voilà
dites
ce que nous vivons.
Quand vous me répondez oui, quand je vous demande si vous vous sentez en danger, ça veut dire que vous faites attention quand vous vous déplacez, que vous vous méfiez de beaucoup de choses?
Oui. Oui, écoutez, même le téléphone, aujourd'hui, on ne parle plus librement au téléphone avec ses amis ou avec, je dirais, les personnes avec lesquelles on est en relation d'affaires ou simplement en relation civile. C'est ce climat que nous vivons au quotidien. En Haïti, quand vous avez un président qui dit « je vais couper certaines têtes » et vous avez des assassinats qui sont commis après de telles déclarations, quand vous êtes toujours, c'est un discours toujours menaçant et avec des actes à l'appui, comment ne pas se sentir menacé?
Dans ce contexte,
seuls les amis du pouvoir peuvent se sentir en sécurité dans ce pays.
Dans ce contexte, c'est héroïque de descendre dans la rue et de réclamer le changement. Il y a eu des comités de citoyens auxquels vous avez participé, qui se sont réunis pour essayer d'organiser une transition. C'est très compliqué dans ce contexte-là, évidemment.
C'est extrêmement compliqué. Ce qui rend la situation compliquée, c'est l'appui dont bénéficie Jovenel Moïse auprès de certaines instances internationales, essentiellement les États-Unis, la mission des Nations Unies et l'OEA.
Comment vous l'expliquez?
Je crois que c'est dû à une sorte de volonté de légitimer une action de la communauté internationale qui dure depuis 30 ans en Haïti et qui nous a conduits à cette catastrophe.
Ouais. C'est
quelque part une façon de se défendre, puisque ce sont les États-Unis, les Nations Unies, la communauté internationale qui ont financé toutes ces élections truquées qui nous ont amené des bandits au pouvoir. Donc cette parodie de démocratie, c'est leur œuvre.
En deux mots, est-ce que vous pensez que la nouvelle administration Biden peut changer la donne?
On l'espère.
Ouais.
On l'espère.
Et comme toujours, vous croyez beaucoup dans l'énergie et l'incroyable ressort de la jeunesse haïtienne, qui reste optimiste.
Oui, vous avez mentionné quelque chose. C'est héroïque de sortir dans la rue dans ce pays. Et quand je vois les reportages sur ce qui se passe dans d'autres pays où les gens se battent aussi pour la démocratie, je dis qu'il y a une injustice commise envers Haïti. Les gens se battent aussi pour la démocratie en Haïti. Il serait temps qu'on en parle un peu plus dans le monde.
Merci beaucoup, Lionel Trouillot, de cet appel que vous relayez aujourd'hui sur Europe 1. Vos romans sont publiés chez Actes Sud et le dernier, tout récemment paru, s'appelle Antoine des Gommiers, un roman qui nous emmène au cœur de la population la plus défavorisée d'Haïti, un mélange de réalisme et d'imaginaire, avec une écriture toujours poétique et engagée comme elle l'est toujours. Merci beaucoup, bon courage à vous et aux Haïtiens.
Merci à vous.
Les Carnets du Monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Joseph Chovanec nous a rejoint, philosophe, autiste Asperger et surtout polyglotte curieux des autres cultures, toujours en vadrouille. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Où nous mène l'autistan cette semaine? Pour résumer, c'est dans le froid que vous nous embarquez.
Oui Sophie, ces derniers jours ou semaines ont été marqués par des vagues de froid puissantes. Paysages méconnaissables, rivières gelées, le grand bouleversement. Ou pas, parce que dans certaines régions du monde, le grand gel, c'est justement la saison dite normale. Ah bien sûr, au début de mes voyages, je pensais que ceux qui vantaient le grand hiver le faisaient un peu par bravade, par excentricité. Je me souviens de l'un de mes tout premiers cours de langue en Estonie, où la prof avait dit que, pour elle, l'hiver, c'était à partir de moins 40 degrés. J'avais cru que c'était une blague pour épater les étrangers.
Et puis, vous y êtes allé, et puis vous avez changé d'avis.
Oui, par exemple en Sibérie. La Sibérie marque par son immensité sur une carte. Ouais. Mais quand on y est, en plein milieu de la Sibérie, l'immensité n'est pas un concept abstrait. Ça pose des questions concrètes, majeures, par rapport au déplacement. Imaginez que vous habitiez un village en France, mais que le village voisin soit à 1300 km, sans absolument rien entre les deux, avec des routes parfois dans un état calamiteux. quand elles existent. Hein. Ce sont des pistes rocailleuses où même les meilleures voitures peuvent éclater en mille morceaux et notre dos avec. Hein. J'ai quelques expériences personnelles de jacuzzi. Hein.
En l'occurrence, rien à voir avec le froid pour les pistes.
Oui, mais en hiver, les choses sont beaucoup plus simples parce qu'on peut se déplacer. La saison dite normale, sinon humaine, en Sibérie, c'est l'hiver. Pour au moins deux raisons. Les pistes boueuses gèlent, deviennent carrossables, les moustiques meurent et surtout les immenses fleuves de Sibérie qui coupent les routes parce qu'ils coulent du sud au nord généralement, deviennent des autoroutes de qualité. Hein. Et par ailleurs, pour les peuples de l'Arctique, l'hiver, c'est traditionnellement le temps de la vie familiale, des loisirs. Comme on ne peut pas beaucoup travailler, on a du temps pour soi, pour les siens. Et c'est en hiver qu'on sculpte les défenses de Morse, qu'on écrit les fameux romans policiers islandais, hein, vie aux amateurs.
C'est très exotique tout ça, et ça semble un peu loin de notre épisode neigeux à nous.
Ben, Sophie, inutile d'aller aussi loin pour trouver une culture où l'hiver est la vraie saison, entre guillemets. Il y a à peu près deux semaines, quand la vague de froid s'apprêtait à tomber sur les Pays-Bas, le Premier ministre néerlandais Rutte a déclaré que cela allait permettre, je cite, « une expérience authentiquement vieille hollandaise ». Qu'avait-il donc à l'esprit ? C'est simple, le patin à glace. De nos jours, on assimile toujours les Pays-Bas au vélo. Mais historiquement, le sport national, c'était le patinage, sur les canaux bien sûr. J'avais cru en voyant cette ligne du Premier ministre que c'était une sorte d'évocation nostalgique sans plus. Mais il n'en est rien. Pendant la vague de froid, les Néerlandais se sont réellement rués sur les lacs, les canaux gelés. Je voulais en avoir le cœur net. Je suis parti dimanche dernier voir ça sur le terrain aux Pays-Bas. Et en effet, la glace était noire de monde. Petit et grand étaient là. Et une image qui me restera en tête longtemps. Près de Maastricht, c'est la Meuse qui fait la frontière entre Belgique et Pays-Bas. Le grand fleuve n'a pas gelé cet hiver. Mais les bras morts du fleuve côté belge, comme côté hollandais, oui. Et c'est là le clou du spectacle. Parce que côté belge de la Meuse, sur les plans d'eau gelée, il n'y avait littéralement personne, hein, à part moi. Par contre, côté hollandais, à quelques encablures de là, c'était noir de monde. Les différences culturelles se saisissent d'un coup d'œil, pour ne pas dire d'un coup de patin.
Oh non, un coup de patin, ça fait mal, Joseph.
Mais justement, les hôpitaux hollandais ont dû faire face à une nouvelle vague d'hospitalisation. 40 000 fractures causées par des chutes sur la glace, j'avoue. Avec mon vélo, j'étais plus d'une fois côté glace plutôt que côté air, mais j'ai réussi à ne pas encombrer les hôpitaux.
Vous n'avez pas de pneus neige sur votre vélo, pas
non,
encore
hélas.
Il faudrait y penser. Merci Joseph, à dimanche prochain.
À tout bientôt.
Merci à tous de nous avoir accompagnés. Fin de la vadrouille, il est temps de refermer les carnets du monde. Comme d'habitude, le podcast sera très vite disponible sur europe1.fr au cas où vous auriez manqué une étape. Ou pour partager avec vos amis. Et la page qui s'ouvre dans quelques minutes, c'est celle de La Voix est libre. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Sophie.
Qu'est-ce que vous nous avez préparé ?
Je reçois Alexis Broca, journaliste pour Lire, magazine littéraire, qui consacre un hors-série aux monstres dans la littérature. Donc on va parler de Frankenstein, Dracula, etc. Et puis je visiterai la bibliothèque de la chanteuse Emma Domas, qui est aussi chroniqueuse dans Lire.
Et nous avec, on sera avec vous, on reste à l'écoute. Bonne émission. Quant à nous, avec Marc Fréjean qui réalise les carnets et Marion Gauthier qui m'aide à les préparer, on vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.
Europe 1, les carnets du monde.